Ma préférence, Irène Finkel.
Et Jacques Laverne.
Bonjour.
Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Ravi de me retrouver au micro de ma préférence avec Irène Finkel. Et exceptionnellement, ce soir, je remplace notre camarade Jean-Luc Palévaudy qui était empêché. Il n'est pas covidé, mais il était empêché.
En tout cas, c'est un plaisir de faire cette émission avec vous aujourd'hui, Jacques.
Voilà, je retrouve cette émission que nous avions créée ensemble il y a plusieurs mois, où on est, je ne sais plus.
Oui, il y a plusieurs années maintenant.
Ça
oui.
passe tellement vite. Alors, vous savez comment, de quoi l'on parle dans ma préférence. Eh bien, on va parler de théâtre, on va parler de littérature, de livres occitans, de livres français, on va parler de séries, on va parler de cinéma. Voilà, nous avons des chroniqueuses, parce qu'il n'y a que des chroniqueuses dans ma préférence.
Et un chroniqueur pour les séries télé.
Oui, ah oui, c'est vrai, qui clôturera notre session d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par le théâtre, puisque Chloé Cardino nous a rejoint. Elle joue ce soir. Vous jouez où, Chloé, ce soir?
Bonjour à tous.
Alors, Bonjour, Chloé.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aussi. Ça faisait un petit moment.
Oui.
Bonne année à tous.
Oui.
Je joue au Bijou ce soir avec la troupe des Acides.
Et vous jouez quoi ?
C'est une série improvisée, justement. Je vous entendais parler de série. C'est une série improvisée.
Oui, donc vous êtes une spécialiste de l'improvisation, ce qui est un art qui n'est quand même pas très commode, mais que vous maîtrisez parfaitement. J'ai pu le voir et vous voir sur scène. Ça a toujours été un grand plaisir. Alors, Chloé Cardino, qu'est-ce qui se passe sur la scène théâtrale toulousaine?
Alors, il y a un seul en scène de Mélissa Billard que je n'ai pas encore vu, mais dont on m'a beaucoup parlé, donc j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Ça s'appelle Haut les cœurs. Mélissa Billard, c'est une comédienne qui travaillait beaucoup au 3T. Elle est connue sur les réseaux parce qu'ils font des vidéos avec son compagnon Fred Menuet. Et donc là, elle a créé son seul en scène qui est... très touchant, qui parle de sa vie à elle, de ses débuts dans le milieu du théâtre, du cinéma, avec un physique assez atypique, il faut le dire, qui apparemment lui a valu quelques difficultés parfois. Et ça fait aussi sa force maintenant.
Qu'est-ce que c'est qu'un physique atypique ?
Atypique par rapport à ce qu'on voit habituellement au cinéma, au théâtre. Et par exemple, elle a moi j'adore, elle a des beaux cheveux et des très gros cheveux bouclés noirs.
Oui,
elle est d'origine libanaise.
Oui.
Et il y a une phrase qui est citée d'ailleurs quand on va sur le site donc du Studio 55 où elle va jouer, où elle joue actuellement déjà, qui dit « Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c'est que le cadre, il est trop petit pour toi ». Et du coup, c'est un seul en scène. Alors, ils disent que c'est à la conquête de soi par le rire et en s'affranchissant des codes. Mélissa fait de ses drames une comédie. Il paraît que c'est très drôle, que c'est hyper touchant à la fois. J'ai des personnes qui m'ont dit avoir eu les larmes aux yeux et avoir pleuré.
C'est de l'autodérision ?
C'est de l'autodérision, beaucoup d'autodérision. Et elle parle de tout ce qu'elle a eu, tout ce à quoi elle a été confrontée quand elle a commencé ses premiers castings, des phrases qu'on peut entendre tous en tant que comédienne et comédien certainement aussi. Parfois, il y a des gens, ils nous sortent des choses improbables et ben on fait avec. Il ne faut vraiment pas avoir trop d'ego dans ce milieu. Et surtout savoir rire, de retourner la situation en humour, quoi. Et donc, ça a été mis en scène par Aude Gogny-Goubert. C'est une comédienne qu'on a vue souvent dans les vidéos du Palma Show. Pour ceux qui connaissent le Palma Show, c'est des humoristes qui font des vidéos et des films maintenant. Et donc, c'est au Studio 55 à Montaudran, à côté de la Halo Machine. Il y a plusieurs dates. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, notamment le 22 à 19h, le 4 février à 20h30, le 25 février à 19h. Et comme c'est son spectacle et que c'est Mélissa et Fred qui possède la programmation de la salle, ils vont certainement le programmer un moment si ça plaît toujours autant. Donc voilà, il y avait déjà ça. Ensuite, cette semaine et la semaine prochaine aussi, il y a un spectacle au Théâtre du Chien Blanc, dont je ne parle pas souvent. C'est un tout petit théâtre à côté de la médiathèque. Et donc, ils vont jouer un spectacle qui s'appelle Sound Up plus Solex. Alors, Sound Up, c'est une entreprise de sondage. En fait, ils sont deux comédiens, aidés par un autre qui s'appelle Augustin Moreau. Et les autres, c'est Guillaume Baraban et Mathilde Saillard, qui vont être... alors, pendant qu'on fait la queue, donc on arrive à peu près, c'est un bien d'arriver vers 19h30, 20h. Le spectacle est à 20h30. Et pendant qu'on fait la queue, avant le spectacle, il y a une entreprise stand-up, une start-up de sondage spécialisée dans les publics privés, qui est constituée de deux employés sympathiques et investis, qui viendront à votre rencontre lors de votre entrée, questionnaire en main. Donc ça va être un questionnaire, j'imagine, un peu improbable, un peu humoristique. Et après, c'est suivi du seul en scène qui s'appelle Solex. Et alors là, c'est un type qui est aux prises avec un moteur de Solex. Et pendant une heure, il remonte pièce après pièce le moteur de l'antique cyclomoteur.
Donc il fait ça sur scène.
Exactement, apparemment. Et moi, je vais voir ça vendredi. Et donc, ils disent que de la mécanique des moteurs à la mécanique humaine, il n'y a qu'un pas. Et donc, c'est deux. Et avec Fabrice Guérin, que je vais découvrir cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera Sound Up, mais avec Tangonella. Donc, ce sera plus Solex. Et Tangonella, c'est le groupe de Guillaume Baraban. Et il y en a d'autres aussi, ils sont plusieurs. Et là, ils font de la musique... ils reprennent des tubes, mais sans instrument, juste avec leur bouche. Et c'est fabuleux. J'ai vu un extrait à un autre endroit. Ils avaient montré 10 minutes de leur spectacle et c'était incroyable. C'était super.
Donc, ils font de la musique avec leur bouche.
Voilà, Tangonella, ça, c'est la semaine d'après, la semaine prochaine. Donc.
Il y a des gens qui font beaucoup de choses avec leur bouche, mais de la musique. Aussi,
non, mais c'est incroyable, c'est bien, parce qu'on on croit, un peu comme les Pow-ho à l'époque, si vous connaissez.
Oui, oui, tout à fait.
Et ben, c'est incroyable, on croit entendre des instruments et c'est super. Et après, une autre chose aussi, au Grand Rond, ça c'est samedi, la dernière date ce sera samedi, parce que c'est du 18 au 22 janvier, oui c'est ça, à 21h. Et alors là, ça s'appelle In Tranquille ou In Tranquilles. C'est un spectacle musical. Il y a de la musique, de la vidéo et du théâtre. Et alors ça, c'est sur l'égalité, les masques, l'injustice et les conditions de la femme noire en France. Et donc, j'ai reçu Fabrice. Donc, son nom de scène, c'est Ernest Barbery, qui m'a expliqué un peu le spectacle. Et ça avait l'air très beau. C'est très poétique pour le coup. Donc, peut-être pas totalement drôle. Et d'ailleurs, ils disent que c'est poétique et politique. Donc, ça peut changer justement de ce que je conseille souvent, comme je conseille souvent de la comédie. C'est peut-être bien d'aller voir ça au Grand Rond à 21h. Voilà. In Tranquille, d'ailleurs, peut-être que ça s'appelle. Et alors, la mise en scène, la personne qui fait ça, c'est... Voilà, les acteurs, c'est Melia Banerban, Ernest Barbery, donc Ibrahim Ba, Sarah Kouzi, et la participation vidéo d'habitantes du quartier de Bagatelle, voilà, parce qu'ils ont fait lire à des habitantes du quartier de Bagatelle des extraits de romans.
Donc ça, c'est filmé?
Ça, c'est filmé.
Ils vont le projeter pendant le spectacle.
Exactement. Il paraît qu'on a l'impression qu'elles racontent leur propre vie et que c'est très troublant et très
il
joli.
Il faut donc trouver de bons habitants qui jouent le jeu, parce que ce n'est pas évident.
Mais apparemment, ouais, moi j'ai hâte de voir ça aussi. Je pense que je vais y aller samedi, pour le coup, à la dernière, découvrir ça. Et puis après, bah, pour finir, je peux parler du dîner, parce que c'est le dîner que vous avez vu d'ailleurs, Jacques.
Oui, je l'ai
vu. Et on le reprend au Grenier Théâtre du 27 au 5 février. Donc un vrai dîner sur scène, on mange, on boit et on improvise avec le public. Donc ça va être très très chouette, j'ai hâte de commencer ça, c'est jeudi prochain.
Est-ce qu'on mange bien aussi quand on est sur scène? Parce qu'entre nous et le public, on ne voit pas ce que vous avez.
Alors,
sur la table.
Une fois on s'est fait une raclette, on s'est fait plaisir j'avoue, mais là on va, vu que c'est le Covid et tout malheureusement, on va faire des choses plus simples avec des plats un peu tout préparés je pense, des salades.
Est-ce que le Covid pèse beaucoup sur le théâtre, alors toulousain parce qu'on est à Toulouse mais c'est pareil partout? Oui, malheureusement,
parce que bon déjà il y a moins de personnes dans les salles, puisque il y a plein de cas contacts et de malades, forcément.
Et les comédiens sont touchés, bien sûr,
et
comme les
comédiens,
autres,
oui, là, on a tous peur tout le temps. On se fait tester dès qu'on est cas contact pour être sûr qu'on peut jouer le soir même. On fait attention, on porte les masques, les gestes barrières comme tout le monde. Et on croise les doigts pour que les gens n'aient pas peur, pas trop peur, continuent à aller venir rire avec nous au théâtre, parce que sans ça, nous... On se sent bien inutile, quoi.
Bon, mais vous ne l'êtes pas. Allez au théâtre, c'est le spectacle vivant. Il faut absolument sortir, se retrouver entre nous.
Oui, ça fait un bien fou, en plus, vraiment.
Ça fait du bien à tout le monde, à ceux qui sont sur scène et à ceux qui les regardent. Merci, Chloé.
Merci à vous.
Si vous voulez savoir si Chloé... Alors, on sait qu'Irène a un physique de radio, mais si vous voulez savoir si Chloé a aussi un physique de radio ou un autre physique, eh bien, ce soir, au bijou, vous pourrez la retrouver et l'apprécier. Vous verrez, elle n'a pas qu'un physique de radio. Merci, Chloé.
Merci beaucoup.
Merci, Chloé.
Merci à vous deux.
Bien, bien écoutez, après le théâtre, on va parler de livres. On va parler de livres en recevant un éditeur. Vous savez que l'éditeur, contrairement à ce que certains pensent en voulant pratiquer l'auto-édition, c'est très à la mode aujourd'hui l'auto-édition. Malheureusement, l'éditeur est incontournable dans la chaîne de l'édition. Et si on veut avoir des ouvrages de qualité, eh bien, il faut passer par un éditeur, contrairement à ce que croient beaucoup. Et donc, nous allons recevoir ce soir par téléphone, parce qu'il est au fin fond du Gers, je crois, Gilbert Noguès, qui est directeur de collection aux éditions Kern. Est-ce que nous avons, je me tourne vers la technique, est-ce que nous avons Gilbert Noguès? Je ne l'ai pas dans le casque pour l'instant, mais ça ne saurait venir. Tarder à venir.
Allô?
Voilà, allô Gilbert? Allô, allô? Allô Gilbert? Voilà, nous y sommes, je crois. Gilbert, est-ce que vous m'entendez? Bon, parfait. En vous annonçant, je rappelais l'importance de l'éditeur dans le circuit et dans la chaîne éditoriale. Et je disais tout le mal que je pense de l'auto-édition, mais vous savez que là-dessus, je suis relativement intransigeant. Alors, Gilbert Noguès, vous êtes directeur de collection aux éditions Kern, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc... Qu'est-ce qui se passe en ce début d'année aux éditions Kern et qu'est-ce que, en tant que directeur de collection, qu'est-ce que vous allez nous proposer très bientôt?
Alors, il y a plein de choses, Jacques. On sort d'une année excellente, j'allais dire, au niveau de l'édition, avec des auteurs qui ont vraiment rencontré le public cette année. Bon, certains étaient déjà dans la maison depuis plusieurs années, mais d'autres se sont révélés. Bon, et donc, je citerai juste 5 titres qui ont particulièrement bien fonctionné cette année. Et il y a eu Du sang sur la stèle, un titre de Poms qui avait déjà publié chez nous. Il y a eu ce pays qu'on assassine de Gilles Vincent, que vous avez reçu récemment dans votre émission. Otage de Pierre Lagaraille et Le Clodo des Carmes de Pierre Dabernat, un Toulousain, un auteur nouveau que je vous invite à rencontrer un de ces jours.
Qui était présent au Salon du Livre dimanche,
voilà,
de Montgiscard.
Tout à fait. Voilà. Et puis, bon, je citerai un dernier, un titre d'un certain Jacques Lavergne, que vous devez connaître, Échec et meurtre, qui a aussi trouvé un public davantage sur la zone provençale. Mais bon, on espère qu'on le trouvera aussi de plus en plus sur Toulouse. Et voilà en gros. Et donc, pour vous parler un petit peu de l'année 2022, mais très rapidement, nous avons reçu énormément de manuscrits, mais ça, je pense que c'est l'effet Covid qui a fait ça. On a retenu 22 titres, dont 16 d'auteurs qui avaient déjà publié dans notre collection, parmi lesquels Simone Jolin, Jérémy Bouquin, Alain Roubagnac, Stéphane Furlan, voilà. Et puis 6 petits nouveaux qui nous ont envoyé des textes vraiment où il y avait un talent incroyable à repérer, comme Frédéric Villard, Olivier Ovid de Blondel, David Passouris, Bernard Ariès, Alain Jouan. Et puis un duo étonnant composé de deux auteurs qui s'appellent Bertil Scali et Raphaël Diandréis et qui nous ont proposé une sorte de... Un étonnant mer, c'est le titre, et c'est une sorte de vision futuriste d'un Bordeaux englouti sous l'océan. Voilà en gros de manière rapide le programme de l'année.
Ça veut dire que les éditions Kern, comme les autres éditeurs, se portent bien, parce que j'ai quand même pas mal parlé avec des éditeurs et aucun ne m'a dit du mal de la période actuelle. Le Covid est loin d'avoir tué la lecture, je dirais même au contraire.
Loin de là, oui, en effet, oui, c'est vrai que c'est bon, sans dire que c'est une année fabuleuse, mais c'est une belle année, et quand on regarde la progression de la collection, cette année, elle est, par rapport aux années précédentes, c'est encore du plus 10% facilement qui ont été faits uniquement sur la collection. Voilà.
Donc tout va bien pour le livre et tout va bien pour les éditions Cairn, si je comprends bien.
Voilà.
Donc beaucoup de travail, j'imagine, parce que publier 20 livres dans cette collection-là,
oui,
il est,
voilà.
Cairn
Alors,
publie autre chose. Mais...
Voilà, à raison de 3 par mois, donc là, si je peux vous parler rapidement, si vous voulez, des 3 premiers titres de l'année, peut-être, si ça vous intéresse.
Oui, en quelques mots,
on a
Gilbert.
Un petit peu le temps. Allez. Ne,
pas trop, mais en quelques mots, allez-y.
En quelques mots, donc il y aura 3 titres, un tout premier qui est un texte de Guy Reichenmann, l'extravagante histoire de Lucien Fanzini. Donc on retrouve son célèbre commissaire Plazia, le boss du Castéja du commissariat de Bordeaux. Un deuxième titre, c'est celui de Rose Penn, qui a déjà publié le précédent sur le phare des âmes perdues, et celui-là va s'appeler Iceland Project. Voilà, c'est un très très beau texte. Et puis un petit dernier, Sombre Voisin de Anne Waddington. Anne Waddington revient ici avec un texte, comment dire, imaginez un immeuble de 5 étages à Croix d'Orade, et dans le quartier de Croix d'Orade, et tout ça bâti sur les vestiges d'une ancienne demeure. Voilà, dedans 16 occupants, chacun débiteur de son passé, des secrets, des envies, des couples à l'équilibre précaire. Et puis tout ça, des drames s'enchaînent sans qu'il soit possible d'interminer l'origine. Que dire, l'enfer s'ouvre sous leurs pieds. Alors c'est un texte que j'ai adoré, voilà. Donc.
Bon, disons-le, tous ces livres sont des romans noirs ou policiers.
Romans noirs, oui. Le dernier, là, on est dans le post-Covid, j'allais dire presque, mais avec ça pète les plombs dans cet immeuble où tous les gens ont été vaccinés, tout, et sont en fin de période. Mais ça pète les plombs au niveau psychologique. Voilà.
Gilbert Noguès, merci. Bon, vous pouvez aller sur le site des éditions Cairn, il est extrêmement bien fait. Vous
voilà,
retrouverez
on tous les titres.
Voilà, tous ouais. les titres dont Gilbert Noguès, le directeur de la collection Polar, nous a parlé ce soir. Merci, vous avez de quoi lire si vous n'êtes pas covidé, si vous êtes ou si vous êtes cas contact, vous avez de quoi faire. Merci Gilbert Noguès et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Voilà, c'était notre séquence avec un éditeur. Eh bien, il y a des gens qui rentrent en studio parce que les éditorialistes se succèdent.
Eh oui, bonjour.
Bonjour. Mais avant de vous donner la parole, parce que vous êtes un peu en avance, mais ce n'est pas grave, nous allons faire une première pause musicale. Et celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. Alors, je voulais vous faire écouter... qui est une grande dame de la chanson pour moi, Anne-Marie-Thérèse Begrasse. Alors vous allez me dire, on ne connaît pas. Si, elle s'appelle Anne Sylvestre, de son nom de scène, chanteuse française, auteure, compositrice, interprète. Elle est née à Lyon en 1934, très très populaire dans les années 60 et 70. On l'a vu beaucoup à la télévision auprès d'artistes prestigieux de la chanson, Brassens, Barbara, Moustaki, Bobby Lapointe. Elle a participé régulièrement à des émissions télévisées avec Denise Glaser ou Jean-Christophe Averty. Alors les jeunes à la technique me regardent avec des yeux ronds et se disent « c'est un dinosaure ». Eh bien non, ça fait partie de la culture musicale. Alors, c'est une dame qui a commencé à faire des chansons dans les années 50, et puis après elle s'est produite dans beaucoup de cabarets, La Colombe, où elle a fait ses débuts en 1957, et oui, le siècle dernier, au Cheval d'Or, à la Contrescarpe, au Port du Salut, chez Moineau, aux Trois Baudets, où elle a beaucoup chanté, puis après il y a la radio. Il y a Brassens aussi, on la compare souvent à Brassens en raison de la qualité de ses textes qui était tout à fait remarquable, et puis aussi parce qu'elle s'accompagnait, comme lui, à la guitare. Elle a reçu le prix de l'Académie de la chanson française, qui n'est pas rien. Et puis elle s'est produite à Bobino, à l'Olympia, en première partie avec Gilbert Bécaud, qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Donc je vous propose d'écouter Anne Sylvestre dans un titre que je vais vous donner, parce qu'elle a une discographie assez abondante. Et là, pour ce soir, eh bien... je vous propose la lettre ouverte à Élise et vous y retrouverez quelques accents de piano que vous avez déjà entendus certainement par ailleurs. Voilà Anne Sylvestre.
La
la la, la la la. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui s'enfin se gargarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux, quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig, s'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la, la la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le guet laboureur. Je sais que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
Alors vous voyez Jacques, j'ai adoré. J'étais beaucoup trop jeune pour l'avoir déjà entendu.
Le studio, j'ai adoré. Le studio est-il l'art? Anne Sylvestre était effectivement une grande. Allez, on va parler de livres, mais on ne va pas parler de livres en français, on va parler de livres en occitan avec Marion, notre libraire de la Toutadoc, hein, qui est incorporée à l'Hostal d'Occitanie, rue Malcousina, où vous avez un très très beau choix de livres en occitan, mais aussi en français. On trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc venez à la Toutadoc, rue Malcousina, voir Marion. Allez Marion, dites-nous.
Eh bien, merci de me donner la parole. Donc, oui, comme l'autre cop, sui ben gudo ambe, John Frances, qui est une stagiaire, qui est à la tuto. Alors, John Frances, adieu.
Adieu.
et donc, est-ce que nous allons présenter le libre à cette serre? Donc, qu'est-ce que vous dites comme libre?
Alors, vous avez causé une libre de Mats Lucchetto, qui s'édite, est une recueil des poèmes de prose, et bah, qui est une plat pouli de recueil, et plein intéressant, pramou, qui est une édition bilingue.
Donc, une édition bilingue, hein, bilingue, français-occitan, évidemment. Donc, bah, super, est-ce une buono causido, c'est un très bon choix, Max Lucchetto, mais perché as causit? Enfin, n'est-ce pas vous direz mai sur Max Lucchetto?
Oh, solide. Max Lucchetto est une auto de cita magie du siècle XX. La traversette complètement, c'est-à-dire que nasquet en 1908 et définitive en 2005. Et donc, bon, bah, escriguette des poésies, mais t'as des littératures tant comme des romans, des théâtres, des ensaches et Baki.
D'accord, donc un auteur, un Max Rouquette, un auteur de langue occitane sur la région de Montpellier, et effectivement qui écrit de la littérature, des romans, de la poésie, du théâtre et bien d'autres. Donc à qu'est-ce que sert, est-ce qu'a osit une librairie de poésie? Alors, perché une librairie de poésie?
Alors, une librairie de poésie, parce que déjà que la poésie m'agrade forte, et bon, que la poésie de Max Rouquette mai particulièrement, parce que... As une vision de la poésie del mundo, que es pla sensible, un saggio de così dire che se questiono, se poso question su ciò che se bei pas, che es invisible, se pose le question su la seuno existencia, su l'existenza in general, e dunque es quicon che me fare su. Che mi fa resù perché chi è utabe mi questioni su mangenos causas e ha un prosa pla sensible che mi agrado forse.
Donc un ouvrage qui éveille ta sensibilité, en tout cas qui fait écho, c'est ce que tu nous dis en occitan, donc che fa resù, hein, che... à ta sensibilità, al mondo, all'environnement, à l'environnement sensible. Alors, vous pouvez pas aussi des leggi un poème, tu un occita et sabes un pau de tens, lo leggerai tabe en français. Donc, lire un des poèmes en occitan et...
Ne vous interrompez pas, Marion, allez-y.
Non, c'est...
Alors, on écoute la lecture.
Et donc, c'est un poème qui se dit « Arras d'augurc ».« Arras d'augurc et arras etat, que me bebia los vols. De la foscou d'augurc en fun, un fun d'agach me faisant signe. Dussou d'agach que per milius me mandaban saluts, et son dansa que me faisant danser los vols como destelos, como berugos de la nuit atraversados de fugidos. De qu'est-ce qu'ici me retenio? De qu'est-ce qu'encar me retenio de medaïsa en accoutria, ma quel brande de cent lunes, de cent de mille de milius de sferos de lutz en son brande? Y abio pas plus que les aïeu, per s'agacha entre lui mundes, en un homeno de cumbers, no canto plidada ou ben, entre que musvol se mirabon, et que musvol se miraliabon, en rempas que brande lutz a ras d'augur.
Merci de cette belle lecture, avec en plus l'accent. Mario a trouvé battu quant à l'accent, mais merci à tous les deux. Donc c'était là tout ad hoc. On rappelle le titre du livre, c'est Poemas de prosa, donc poème en prose, hein, ça vous avez compris, surtout avec l'accent que j'ai, ne riez pas tous les deux. Et c'est de Max Rouquette, qu'on connaît bien, hein, qui est par ailleurs, je crois, pas mal publié, Max Rouquette. Donc là tout ad hoc. Rue Malcousina, à l'Hostal d'Occitanie. Merci à tous les deux.
Merci, Flo.
Merci beaucoup. Je me rends compte que je fais de plus en plus de progrès parce que je vous comprends de plus en plus à chaque fois. Donc, ça fait beaucoup de bien d'entendre.
J'ai parlé en français aussi.
Oh,
mais
oui,
ça,
oui, ça, oui. Excellente précision.
Merci beaucoup.
Excellente précision de Marion, effectivement. C'est pour ça, Irène.
À dans 15 jours, Marion. Merci beaucoup.
Merci, à dans 15 jours. Bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir parler de livres maintenant en français avant d'attaquer ce qui se passe dans les étranges lucarnes. Nous allons voir si Pascal Sabatier, notre spécialiste du livre, peut... Oui, Pascal Sabatier. Alors, Pascal Sabatier... Allô, Pascal ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Eh bien, écoutez, vous êtes à l'antenne.
Bonjour, Pascal.
Avec toute l'équipe est là, nous venons d'entendre votre collègue Marion de la librairie La Tutado qui vient de nous parler de poèmes en prose mais en occitan, et vous allez nous parler en français, et de quoi allez-vous nous parler, et de qui surtout?
Alors tout d'abord bonjour à vous deux, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui je vais vous parler de deux histoires de femmes courageuses, puissantes comme dirait Marie Ndiaye, à deux époques différentes, à travers deux romans écrits également par deux femmes, une irlandaise et l'autre française. Alors le premier, Ça s'appelle Le Pavillon des combattantes. C'est un roman d'Emma Donoghue aux Presses de la Cité. Et ça raconte l'histoire suivante. On est en novembre 1918, alors que la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Un autre combat s'est engagé contre un ennemi sournois, celui-ci, et qui touche toute la population. C'est évidemment la terrible grippe espagnole. À l'hôpital central de Dublin, Julia Power, qui est infirmière en obstétrique, est chargée de la surveillance de la zone de quarantaine des femmes enceintes touchées par la maladie. Accompagnée d'une jeune orpheline bénévole et du docteur Catherine Lynn, une figure du mouvement indépendantiste parce que ça se situe au moment de l'indépendance de l'Irlande, de la guerre d'indépendance de l'Irlande, et que cette docteure est recherchée par la police, donc elle, c'est un personnage réel, hein, parce qu'ici, elles vont, pendant 3 jours, parce que le roman se déroule sur 3 jours, combattre avec le peu moyen dont elles disposent, que la ville emporte sur la souffrance et la mort. C'est un roman que j'ai trouvé formidable. Alors, formidable à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est une leçon d'humanité. Ensuite, parce que ces trois femmes qui sont vraiment en avance sur leur temps par leur perception, par la perception de leur environnement, et complètement à contre-courant de la majorité. Elles sont le symbole de tous les combats féministes. C'est formidable aussi par sa dimension sociale, parce que l'état catastrophique des femmes qui arrivent dans ce service est aussi un prétexte pour dénoncer la misère du peuple irlandais à cette époque, et surtout l'emprise de la religion catholique sur les esprits et les corps, parce que c'est énorme à cette époque-là en Irlande, ça l'est toujours peut-être un peu aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, surtout ce roman, il résonne, vous en doutez, assez étrangement dans l'épisode épidémique que nous vivons actuellement depuis 2 ans, et c'est surtout un vibrant hommage au corps médical qui veille sur nous quoi qu'il en coûte. Alors il y a des passages où on peut lire sous la forme de petits panneaux les consignes gouvernementales de l'époque et le décalage avec la réalité du pays. Alors c'est très très parlant, et on peut faire des parallèles avec ce qui se passe parfois aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que bizarrement, malgré les progrès époustouflants de la médecine, on doit toujours rester humble face à un phénomène qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est face au Covid. En 1918, c'était face à la grippe espagnole. Voilà, il est de ces combats que l'homme ne gagne pas systématiquement. Il les gère comme il peut. Et ce roman nous le rappelle, et c'est aussi en cela qu'il est merveilleux. Vraiment, j'ai adoré ce roman, je vous le conseille vivement.
Ça, c'était le premier. Nous avons bien compris l'engouement qu'il a suscité chez vous, Pascal.
Ah oui, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Le deuxième roman s'intitule L'Embuscade. Alors là, on part. Alors, c'est un roman français qui est sorti au moment de la rentrée littéraire là, en septembre. C'est de Émilie Guillaumin. Il est édité chez HarperCollins. Celui-ci, il raconte l'histoire de Clémence. Alors, Clémence, elle a un mari qui est membre des forces spéciales dans l'armée et qui est partie en mission au Levant, enfin en Syrie. Elle ne sait pas où, parce qu'il fait partie des forces spéciales avec tout le secret que ça englobe. Donc elle ne sait pas où il est parti. Mais un jour, elle a 2 messagers à sa porte qui disent que le groupe de son mari sont tombés dans une embuscade. Les 5 soldats sont morts. On ne lui dit pas au début que son mari est mort. Et elle va apprendre, une fois que les corps sont retrouvés et identifiés, qu'il ne fait pas partie de ces 5 corps.
Oui, ça doit être assez terrible comme situation à vivre. Et c'est une situation qui s'est déjà produite, on le sait.
Je suppose. Et donc, il est impossible pour elle de ne pas se dire qu'il est toujours vivant. En plus, elle a 3 petits-enfants, elle attend le 4e. Et elle ne peut pas dire à ses garçons, l'aîné a 10 ans, je crois, que leur père est mort. Donc, elle leur dit que il n'est pas encore rentré, elle a tout ce combat à mener dans sa tête, chez elle, et surtout contre l'armée, parce qu'elle va absolument chercher à savoir ce qui s'est passé. Et vous allez voir au fil du roman qu'il s'est passé des trucs pas très clairs. Alors, outre le fait que ce soit très bien documenté, parce que je suis allée voir un peu la biographie de l'auteur, elle a été 2 ans dans l'armée, donc elle sait de quoi elle parle. Ben, ce roman, il nous met dans la peau d'une femme, d'un soldat en mission. C'est vrai qu'on on voit des soldats tomber au front assez régulièrement. Et on ne pense pas forcément à ce qu'ils laissent sur le bord du chemin, les femmes, les enfants. Elle ne sait pas quoi dire à ses enfants. C'est une femme qui va devoir se battre dans ce milieu qui est très fermé, très secret, très masculin. Voilà, c'est une femme d'une grande force, mais elle ne comprend pas toujours ce qui a poussé l'homme qu'il aime à prendre autant de risques. Alors, il y a du suspense, il y a beaucoup d'émotions, une écriture qui est juste magnifique. Voilà, il y a des bouquins comme ça qui passent au travers du battage médiatique de la rentrée littéraire, et moi, je trouve que c'est fort dommage. Alors, celui-là, je vous le conseille. Il vaut vraiment le coup. Voilà,
bien,
c'est ma
merci.
Chronique d'aujourd'hui.
Merci, Pascal, de ce conseil. Donc, Pascal Sabatier est la responsable de la bibliothèque de Montgiscard et aussi une des responsables du Salon du Livre de Montgiscard, Salon du Livre d'hiver, qui s'est tenu dimanche dernier avec passablement de succès, malgré le Covid, malgré le froid, malgré la crainte de certains, n'est-ce pas, Pascal ?
Voilà, on a de très très bons retours des auteurs et moi, ces jours-ci, des visiteurs de la bibliothèque qui sont allés au Salon, qui étaient tous ravis, qui est une animation culturelle, avec du monde, avec une bonne ambiance, où on ne parle pas que de Covid, et ça a fait du bien à tout le monde, et à nous les premiers, parce que quand on passe un an à préparer une manifestation comme ça, on est quand même content simplement qu'elle ait lieu.
Et elle a eu lieu, elle a eu bien lieu, elle était...
C'était très bien, et tout le monde est content, je pense, vous aussi.
Tout à fait, bien écoutez, les auteurs qui étaient présents étaient contents, ils l'ont tous dit, et c'était un excellent moment, la vie reprend, la continue, on la poursuit, et voilà, on va vaincre l'adversité et vaincre le Covid en attendant qu'on en trouve un autre. Merci de votre intervention, Pascal Sabatier. Merci de cette relation.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Pascal.
Et
on se retrouve dans 15
jours. À bientôt, dans 15 jours, Pascal.
Bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, bien, on va faire quand même une petite pause musicale. Alors, la petite pause musicale, Irène, c'est vous qui l'avez choisie. Donc, vous avez choisi, bien sûr, une musique qui correspond à vos années de maturité, salade de fruits de Bourville, et donc choix d'Irène.
Absolument, j'avais envie, alors pourquoi cette envie, j'en sais rien, j'avais envie d'une chanson sympathique.
Envie d'une salade de fruits ou d'une chanson ?
D'une chanson sympathique, légère, pleine de tendresse, comme l'était Bourville. Alors il faut savoir que cette chanson est sortie en 1959, elle a été écrite par Noël Roux, le futur auteur de la chanson La Tendresse, et Armand Canfora, qui lui-même a composé pour de nombreux autres chanteurs de variété. Alors, bien sûr, elle est sortie en 59 avec Bourville, ce qu'on va entendre tout de suite, mais il faut savoir que peu après, elle a été reprise par la chanteuse et actrice belge Annie Cordy. C'est vrai que je n'ai jamais entendu Annie Cordy la chanter.
Et pourtant, vous êtes de la même génération, donc vous avez dû certainement l'entendre plusieurs fois.
Mais alors, il n'y a pas que Annie Cordy qui l'a chantée. Elle a été reprise bien des fois depuis, on s'en doute, 1959. Et alors, la dernière reprise date de 2005. Et est-ce que vous savez qui a chanté Salade de fruits en 2005.
Oh bah certainement votre égérie, Vincent Biolay, c'est ça.
Non, alors d'abord, c'est pas Vincent, c'est Benjamin. Mais pas du tout. C'est Roberto Alagna.
Ah, un ténor italien.
Un ténor qui a chanté Salade de fruits. Je pense qu'une autre fois, il sera intéressant d'écouter cette version. Mais on va se faire plaisir aujourd'hui en écoutant la version originale avec Bourville. Merci.
Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. pendu dans ma paillote au bord de l'eau. Y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
Voilà, voilà Bourvil et... Nous avons eu droit, nous, en studio, à un doublage par Irène. On est tous un peu
c'est sympa, c'est très positif, ça fait du bien, Jacques.
On est tous un peu catastrophés. Bien, on va continuer avec Irène qui va nous faire son cinéma.
Eh oui, alors je vais vous parler cinéma. Alors, je ne sais pas si je dispose de beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de films. Alors, je vous les ai triés par cinéma. Donc, je vais commencer par vous faire part de ce qu'on doit voir actuellement et dans les semaines à venir au Gaumont. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au Gaumont ? On a actuellement Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Alors, le synopsis, c'est en 73, dans la région de Los Angeles, on a Alana et Gary qui font connaissance le jour de la photo de classe au lycée de garçons. Alors, Alana n'est plus lycéenne, elle a 25 ans, mais elle tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui... Il est lycéen, mais il a déjà une petite expérience d'acteur. Il s'empresse de dire ça à la jeune fille pour pouvoir l'impressionner. Elle est amusée, intriguée par l'assurance hors norme de ce jeune homme. Elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passera comme prévu. Alors ce film, j'ai vraiment adoré les images qui sont marquantes. Les acteurs sont parfaits, la bande-son est magique, les plans, les costumes, tout est beau dans ce film. Pourtant, quel dommage, on s'y ennuie, le scénario il est très bof. C'est un film qui est complètement barré, mais par rapport à tout ce que j'ai dit au début, pour les images, pour les acteurs, pour les costumes, c'est un film qui est extrêmement séduisant et que je vous conseille. On a Sean Penn et Bradley Cooper en rôle secondaire, ils sont absolument impressionnants, mais leur présence n'arrive même pas à perturber l'histoire d'amour de ces deux jeunes gens. C'est actuellement au cinéma Gaumont. Alors, on a aussi actuellement au cinéma, depuis le 12, c'est le film Placé. Ça, c'est le réalisateur Nessim Chikawi qui a fait ce film. Nessim Chikawi, qui est réalisateur aujourd'hui, qui était lui-même éducateur. Et il a fait un film, voilà, il a fait pas une autobiographie, mais il a fait... un film sur sa première expérience d'éducateur spécialisé. C'est un film où vous avez Julie Depardieu, Philippe Rebaud. Alors, le synopsis de ce film, parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut pas passer les épreuves de concours d'entrée à Sciences Po. Alors, il cherche un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau. C'est là qu'il devient éducateur dans une maison d'enfants à caractère social. Confronté à un milieu dont il ignore complètement le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette aventure... cette expérience, plutôt qu'une aventure, va changer sa vie. Alors, c'est vrai que tout est dit dans le synopsis, mais le film est d'une tendresse extrême. C'est absolument positif, c'est sans misérabilisme. Les acteurs sont beaux, ils sont crédibles. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit film qui se laisse regarder. C'est actuellement au Gaumont et ça fait du bien. C'est un film très positif et tout ce qui est positif, à ce moment, je pense qu'il faut le prendre.
Alors, quelle sagesse.
N'est-ce pas, Jacques ? Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort aujourd'hui au cinéma ? On a bien sûr le dernier film de Claude Lelouch. Alors, c'est L'amour, c'est mieux que la vie. Où on a Sandrine Bonnaire, Kev Adams, c'est beaucoup d'acteurs encore. Je vous dis simplement, le dernier Lelouch est sorti aujourd'hui. Un Lelouch, ça ne se raconte pas, ça se voit, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime Lelouch, donc j'ai passé un très bon moment. Et je vous laisse aller découvrir ce film également au Gaumont. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un film, là, c'est le dernier pour le Gaumont. C'est un film qui sortira par contre que le 9 mars. Alors j'aurai le temps de vous en reparler. On va aller très très vite.
On va pas trop en parler parce que sinon on va l'oublier.
Vous allez l'oublier. Bon, alors comme on en a beaucoup, allez, ça, c'est, on en a eu,
on
en a eu trois.
De poisson rouge.
Alors on en reparlera. Alors on passe à chez nos amis de l'American Cosmo. Alors qu'est-ce qu'on a à l'American Cosmo ? On a actuellement un film qui s'appelle Rosie. De Marine Barnieras, alors elle a toujours un nom qui est super difficile à prononcer, elle le dit elle-même, puisque j'ai eu la chance de l'interviewer, Marine Barnieras, voilà. Elle s'appelle Marine, hein, puisque c'est une autobiographie, elle a 21 ans le 3 avril 2015, lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, SEP. Le besoin de vivre, de se découvrir et d'accepter se fait à travers un voyage de 9 mois en solitaire dans 3 pays différents, la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. Au-delà de son enthousiasme communicatif, de sa soif de vivre, elle nous offre des paysages merveilleux de découverte. On voyage complètement avec elle dans ce film. Et puis bien sûr, un film qui interroge sur l'urgence de faire, l'urgence de vivre, sur l'acceptation de l'irrémédiable, sur l'amour, sur la famille également. C'est un très, très beau documentaire d'1h39. Il est équilibré, il est vivant. Il y a de très, très belles images sur une musique de M. On ne s'ennuie jamais, bien au contraire. La couleur est belle. Marine est émouvante en nous offrant ici sa propre découverte intérieure. C'est actuellement à l'American Cosmo et je vous le conseille vivement. Qu'est-ce qu'on a ? On a encore actuellement à l'American Cosmo un film qui s'appelle Little Palestine, journal d'un siège. C'est de Abdallah El Khatib. Alors celui-ci, âme sensible, s'abstenir. C'est suite à la révolution syrienne. Le régime de Bachar al-Assad assiège le quartier de Yarmouk à Damas. C'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Alors c'est là-bas que se trouve alors isolé le réalisateur qui témoigne des privations quotidiennes tout en rendant hommage au courage des enfants et des habitants du quartier. C'est un film précieux, important, poignant, la réalité de la vie en état de siège, les bombardements, la faim. Je dis âme sensible s'abstenir parce que c'est un film qui est douloureux, qui est très très fort, qui est poignant. Il faut vraiment le voir, vraiment. C'est un film important. Alors, qu'est-ce qu'on a le 2 février ? Ça, je peux en parler pour l'American Cosmo.
Allez, le dernier,
alors,
Irène.
Alors, si vous me dites c'est le dernier, je passe directement à l'ABC. On verra ceux de février plus tard. L'ABC, qu'est-ce qu'on a ? On a actuellement... on a un film très sympa. C'est Ouistreham, qui est l'adaptation du livre de Florence Aubenas.
Excellente journaliste, excellent livre.
Oui, vous l'avez lu ?
Oui.
Alors, je vous conseille tout à fait d'aller voir ce film. Alors, le synopsis, c'est Marianne, qui est une écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Ce film est sans phare, sans mélo. Il est tout aussi efficace et intéressant que « Debout les femmes » qu'a fait François Ruffin il y a quelques semaines. Les actrices sont pratiquement toutes non professionnelles, à part bien évidemment Juliette Binoche, et ces non professionnels donnent tout à fait une justesse et un humour à ce film. C'est très, très chouette, il faut le voir, vraiment. Ça, c'est actuellement au cinéma. Alors là, vous me faites signe, il faut que j'arrête ou je peux continuer ?
Oh non, je pense qu'on va arrêter parce qu'on a déjà quand même beaucoup,
oui,
beaucoup,
alors,
beaucoup
non,
de
non,
choses.
Non,
jetez plus, Irène.
Oui, alors c'est juste,
Alors le dernier rapidement, c'est que je suis dernier, le gardien du temps.
Je sais. Alors le dernier, mais le dernier, mais le plus important, puisque là, c'est même pas un coup de cœur. Pour moi, c'est un film hors compétition. C'est le film, le premier film de la nouvelle réalisatrice Sandrine Kimberlin. C'est Une jeune fille qui va bien au cinéma ABC. Il sort le 26, donc mercredi prochain. Paris, été 42. Irène est une jeune fille juive qui vit l'élan de ses 19 ans. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis simplement que c'est plus qu'un coup de cœur. Pour moi, c'est un film qui est hors compétition.
Non, puis elle s'appelle Irène. Donc effectivement, je comprends que ce film ait retenu
ma faveur. Mais je veux simplement vous dire une chose. En ce qui concerne la réalisation de ce film, une très grande réalisatrice est née avec ce film.
Et voilà. C'est une très belle actrice aussi qui est très très
et
agréable
à suivre. Et une femme charmante
suivre.
Que j'ai interviewée. On retrouvera très prochainement mon interview sur notre site Esprit Occitanie. Voilà.
Merci.
Je vous laisse la parole, Jacques.
Merci Irène pour ces nouvelles du cinéma. Vous voyez que la production est quand même extrêmement riche. Il y en a pour tous les goûts. Alors, vous propose d'en terminer par notre ami Grégory Combe qui lui ausculte les séries et qui nous a envoyé ses réflexions et son analyse sur celle-ci, Grégory Combe.
Ah, chère Irène, nous sommes encore en janvier et j'en peux plus de mes collègues qui me disent « Bonne année 2022, elle sera sûrement meilleure que 2021 ». Alors franchement, 2020, c'était de la merde. 2021, c'était tout autant de la merde. Et 2022, ça sera pareil. Je sais pas, le fait que la Terre ait fait un tour complet autour du Soleil va révolutionner le monde. On est sorti de la pandémie, les anges de la télé-réalité vont enfin s'arrêter, le quotient intellectuel des Français va arrêter de chuter, les productions culturelles vont-elles être enfin de qualité? Mais non, mais que dalle, l'humanité court à sa perte. Et franchement, chaque jour, je me dis que c'est pas une si mauvaise chose. Alors, au lieu de nous laisser disparaître en paix, la télévision se fait un malin plaisir de nous imposer des productions de plus en plus immondes. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 faits touchants les séries télé et le monde geek de 2021 qui nous ont fait autant souffrir que les débats à la présidentielle. Alors le premier, HPI, ou la nullité des productivités des productions françaises. Déjà, rien que le scénario me donne envie de me châtrer. Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 162 QI et une bonne dose d'insoumission va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante. Déjà c'est bien, à quoi, comment on définit Morgane? Ben, 3 enfants, 2 ex. Ok c'est cool, mais en fait tout est à jeter dans cette production Made in France. Audrey Fleurot surjoue à en faire péter les vitres de mon appart de 38 mètres carrés, l'insolence est érigée au rang de valeur républicaine et on copie allègrement le scénario de Mentaliste mais en version éco plus. Après cette purge, et c'est ça le pire, tous les parents qui ont un enfant chiant et dissipé répondent « Oh mais non, il est pas chiant, il est HPI, il est tellement intelligent qu'il doit trouver ses limites lui-même. » Ben non Brigitte, ton gamin il est pas surdoué, il est juste con et mal éduqué. Le pire, c'est que cette production est un des records d'audience de TF1 et qu'on aura droit à une seconde saison qui est très demandée par les fans. En fait, je pense qu'on mérite de souffrir. Justice League version Zack Snyder sort et est annulé. Alors en fait, Justice League, ça a été massacré par le studio Warner Bros. Et on a donné l'opportunité au réalisateur Zack Snyder de faire sa version. Il sort une version de 4 heures, extraordinaire, sûrement un des meilleurs films de super-héros jamais vus, donc je vous conseille Justice League Snyder Cut. Et donc, c'est révolutionnaire, les fans sont heureux, tout le monde est content, tout le monde dit c'est ça qu'on voulait voir, c'est une des meilleures œuvres de super-héros de ces 20 dernières années, on veut la suite. Maintenant, Warner, ils annulent, ils disent on va tout rebooter, parce qu'en fait, c'est ce que veulent les fans, et ce que veulent les fans, c'est pas bien, parce qu'on leur donne Batman, Superman et Wonder Woman, et c'est trop ancien comme valeur, donc on va leur donner Shazam qui va gérer la Justice League avec Batgirl, Supergirl et je sais pas qui. Voilà. En fait, ce qui est formidable, c'est que les studios, ce que veulent les fans, et en plus quand ça marche, ils s'en foutent, ils ont juste un agenda politique, et ils mettent leur agenda politique, plus que faire plaisir aux fans. J'espère que la suite du DC Universe au cinéma va se foirer, parce qu'un tel mépris pour les fans mérite sanction. Ensuite, Disney transforme Boba Fett, hein, le chasseur de primes ultra méchant, en une espèce de reine des neiges, comme le Kaïd dans la série Hawkeye. Alors là, on arrive, les deux dernières séries Disney, hein, Boba Fett dans l'univers Star Wars et Hawkeye dans l'univers Marvel, montre les limites de Disney. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des méchants qui sont pas si méchants que ça, qui sont un peu pourris, et que personne ne respecte. En fait, la Disney ne sait plus raconter des histoires, à part ses histoires aseptisées. Bref, je veux même plus en parler. La série Lupin sur Netflix continue. Alors, perdre du temps de vie à vous parler de cette série serait déjà lui accorder trop de crédit. Alors, je dirais juste qu'en fait, revisiter le mythe de Lupin en plaçant l'histoire dans notre société actuelle, bah, ça pourrait être vraiment pertinent. Mais pour ça, il faut du talent. Et les mecs qui font Lupin n'en ont pas. Les Anglais, eux, par contre, ils ont réussi avec Sherlock à nous montrer que c'est faisable. Mais encore une fois, eux, ils savent écrire. Et ensuite, le dernier point qui me gonfle, que je ne supporte plus, la cancel culture qui progresse. Alors, Friends n'avait pas assez de diversité. D'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux non plus. On met des quotas aux Oscars. Et en fait, aujourd'hui, toujours pareil, pour plaire à un agenda politique, on va mettre des quotas dans tous les sens et imposer à la créativité de mettre des personnes de telle ou telle origine. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de Will Smith. Je me foutais de sa couleur. Je voulais être le prince de Bel-Air. Tout le monde voulait être le prince de Bel-Air. Ce mec était super cool. Donc, arrêtons de parler de couleur, d'origine, de religion. Faites-nous juste des bonnes productions qui nous permettent de nous identifier à ces personnes en nous montrant quelque chose de positif. Et arrêtons de vouloir effacer le passé. Effacer le passé, c'est la méthode des dictateurs. Et aujourd'hui, la cancel culture est une dictature en elle-même, une dictature culturelle qu'il faut combattre par tous les moyens. Je vous remercie.
Voilà l'excellent Grégory Cobb qu'on remercie. Et je
oui, merci beaucoup. J'adore Grégory. J'adore ses chroniques.
Bon, il est cash, il dit les choses comme elles sont et je dois dire que j'adhère à 300% à ce que nous venons d'entendre.
Idem.
Irène, l'heure est venue largement sonner de nous quitter. Alors, on va remercier toutes nos chroniqueuses et chroniqueurs, Chloé, Pascal, Marion et bien sûr Grégory que l'on vient d'entendre. C'était Ma Préférence, une émission d'Irène Finkel et de Jacques Lavergne avec à la réalisation Yanis que l'on remercie qui est venu nous retrouver après avoir pris une interruption mais il se souvenait bien de là où il faut mettre les doigts sur toutes ces touches et ces tables de mixage. Merci Yanis, merci Mathieu qui l'a assisté.
Je retrouverai mon complice Jean-Luc pour une nouvelle de Ma Préférence dans 15 jours.
Voilà, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres bien sûr sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne journée à toutes et à tous, à bientôt.
Au revoir Jacques.
Au revoir Irène.